Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Ouvrons maintenant la Bible au très grand évangile de Luc qui est devenu un trésor pour nous. Luc chapitre 23. Dans notre dernier passage tiré de Luc 23, nous avons étudié les versets 44 à 46 concernant la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous arrivons maintenant au verset 47. Du verset 47 au verset 49. Les réactions au calvaire. Luc nous donne un très bref rapport des réactions à la mort de Christ. La réaction des soldats romains, la réponse de la foule et la réponse des connaissances de Jésus. Et c'est une bonne façon de clore ce rapport de la mort de Christ parce que chacune de ces réactions est une réaction juste. Les soldats romains ont réagi comme ils le devaient, la foule a réagi comme elle le devait et les personnes qui suivaient Jésus ont réagi comme elles le devaient. Chaque réaction est juste et unique. Ensemble, elles nous donnent l'image de la réaction complète qui devait être celle de nous tous. Cela correspond bien au dimanche lorsque nous venons à la Sainte Cène et considérons nos réactions face à la croix de Christ. Mais lorsque le Seigneur nous a présenté cette recommandation, ce n'était pas simplement pour nous rappeler l'histoire de cette journée, mais pour renouveler notre juste réaction. Cette table qui nous amène à la croix est conçue pour susciter en nous une confession de péché renouvelée, un nouvel engagement à l'obéissance. Elle est conçue pour susciter en nous la gratitude et la joie. Elle existe comme témoignage. C'est en un sens une pleine expression d'adoration rassemblant tous ces éléments. En pensant aux réactions survenues ce jour-là au calvaire, nous avons besoin d'examiner notre cœur et de nous demander quelle est notre réponse face à la croix. Laissez-moi vous lire les versets 47 à 49. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit « Certainement, cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent se frappant la poitrine. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Luc ne perd pas de temps. Dès que Jésus pousse son dernier soupir au verset 46, dès qu'il meurt, les réactions sont immédiates. Nous avons vu le moment le plus solennel de l'histoire, la mort de Christ. Nous en sommes venus à comprendre qu'il a pris sur lui toute la colère de Dieu contre les péchés de tous ceux qui croiront un jour. Dieu s'est révélé au calvaire, particulièrement entre 12 et 15 heures dans l'obscurité, dans le tremblement de terre et dans la résurrection de leur tombeau des saints qui étaient morts, et dans le déchirement du voile du lieu très saint, de haut en bas. Dieu s'est révélé dans une avant-première du jour du jugement du Seigneur, dans toute sa plénitude. Seulement cette fois-ci, il n'a pas déversé son jugement sur les pécheurs. Il l'a déversé sur son Fils, au lieu des pécheurs. C'est une indication de la ratification de la nouvelle alliance, et c'est pourquoi, à ce moment-là, le voile a été déchiré en deux parties dans le temple, afin que le chemin menant à Dieu soit totalement ouvert. C'était la fin du temple, c'était la fin de la prêtrise, c'était la fin des sacrifices, c'était la fin de l'ancien affranchissement. Au moment où Jésus est mort, tout cela était terminé. Nous avons étudié ces choses. Et maintenant, il est temps de regarder à ces trois réactions et de nous demander quelle est ma réponse à cet événement monumental et sans égal. Premièrement, les convaincus. Les convaincus, au verset 47. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit « Certainement, cet homme était juste. » Matthieu parle de lui. Marc parle de lui aussi. Son témoignage est très, très improbable. Il faut savoir un peu ce qu'était un centenier. Un centenier romain était à la tête de 100 hommes. 100 hommes représentaient une centurie. Leur chef est donc un centurion ou centenier. Les centuries étaient les unités de base d'une légion romaine. Il y avait dans toute l'armée romaine environ 25 légions. Chaque légion était constituée d'environ 6000 hommes divisés en cohortes de 600 hommes chacune. Chaque cohorte comportait 3 manipules et chaque manipule était constituée de 2 centuries. Une centurie était donc en fait la plus petite unité du système romain. Chaque centurie était commandée par un centurion. Ils étaient soldats. Ils n'étaient pas des élites. Ils étaient sur le terrain avec les troupes. Ils avaient fait leurs preuves et ils avaient gagné leur promotion à ce grade par l'efficacité de leur fait d'armes. Ils avaient mis leur vie en péril régulièrement et ils étaient chefs de troupes à l'époque la plus dangereuse de tous les temps. Cet officier gardait en particulier Jésus et commandait nécessairement les soldats qui étaient responsables de ce prisonnier. Il était au-dessus des soldats qui, très probablement, ont arrêté Jésus le jeudi soir dans le jardin, qui sont ensuite restés avec lui pour s'assurer qu'il ne s'échapperait pas et que personne ne viendrait le délivrer. C'était probablement les soldats sous son commandement qui, avec lui, ont accompagné Jésus pendant tout le temps des jugements et particulièrement lorsqu'il a été conduit devant Pilate, devant la cour de justice de Pilate. Ce centenier, ces soldats, ont été ceux qui se sont moqués de Jésus. Ce sont ceux qui ont jeté le vieux manteau d'un soldat sur lui en guise d'habit royal et ils ont mis un roseau dans sa main en guise de sceptre et une couronne sur sa tête en guise de couronne de roi alors qu'il s'agissait d'une couronne d'épines. Ce sont eux qui ont dû prendre ce semblant de spectre pour le frapper au visage, cracher sur lui, se moquer de lui et plaisanter à son sujet. Ce sont les soldats qui ont été témoins oculaires de tout le supplice depuis le tout début. Ils ont entendu toutes les conversations. Ils ont entendu toutes les accusations. Ils ont tout entendu au moins 6 fois. Ils ont vu Jésus agir comme aucun autre prisonnier auparavant, totalement innocent. Son innocence vérifiée à chaque fois, encore et encore. Et pourtant, il ne s'est jamais rebellé. Il n'a jamais crié. Il n'a jamais exigé une quelconque justice qu'il ne recevait pas. Il traverse les jugements injustes avec grâce et majesté, et il prend sur lui toutes leurs moqueries et leurs maltraitances en silence, sans jamais protester. Même s'il crache sur lui, s'il le nargue et le maltraite, il ne les maudit jamais, il ne les menace jamais. Il devait être vraiment surpris de voir combien il réagissait différemment de tous les autres prisonniers qu'ils avaient connus. Un tel comportement était inclassable, un homme innocent qu'on menait droit à la croix. Ils étaient aussi ceux qui l'ont cloué sur la croix. Au moins 4 d'entre eux. Ces hommes étaient endurcis, et Jésus, qui était passif, semblait indifférent à la façon dont ils le traitaient. Ils n'ont pas réagi à sa passivité en usant davantage de sympathie, pas du tout. Ils ne lui ont montré aucune compassion. Ils ont frappé ses clous avec le marteau pour les enfoncer dans ses mains, comme si c'était dans les mains de n'importe qui, et dans ses pieds. Ils ont redressé la croix et ils l'ont laissée tomber dans le trou creusé à cet effet, alors qu'elle touchait et déchirait ses plaies ouvertes. Ils ont tiré au sort les vêtements de Jésus, et ils se sont simplement assis pour le regarder mourir, comme ils en avaient regardé des centaines d'autres mourir. Mais pendant tout ce temps, les choses qu'ils voyaient repassaient dans leurs pensées. Ils ont entendu Jésus prier pour ses tueurs. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils ont vu son comportement noble alors qu'il souffrait. Ils l'ont entendu crier à son père. Ils l'ont entendu promettre le paradis aux malfaiteurs pénitents qu'il avait insultés. Puis, ils ont vécu l'impossible. Minuit, à midi, 3 heures d'obscurité complète et un tremblement de terre qui fend les rochers. Ils ne pouvaient plus ignorer la réalité. Et en preuve finale, l'obscurité, le tremblement de terre, et puis Jésus, juste avant de mourir, qui crie d'une voix forte « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Personne n'avait jamais fait ça. Les personnes qui mouraient de crucifixion avaient le cerveau privé d'oxygène et étaient longtemps incohérentes avant de finalement mourir. Ils ne pouvaient pas rassembler assez de souffle pour respirer, sans parler de crier de toute leur force. Cet homme est mort de sa propre volonté, et il en était le maître. Marc écrit « Le centenier, qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément cet homme était fils de Dieu. » Où est-ce qu'il a trouvé cette expression ?« fils de Dieu. Jean 19, 7 dit « Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Et le centenier a conclu qu'il l'était. Matthieu note que le tremblement de terre qui survient au moment précis où Jésus-Christ fait basculer leur croyance. Lorsque le centenier, mais aussi les soldats qui l'accompagnaient, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur. Cette petite expression « grande frayeur » est exactement la même qui est utilisée sur le mont de la Transfiguration lorsque Pierre, Jacques et Jean ont une grande frayeur en voyant Christ transfiguré dans sa gloire. Ce genre de crainte est une réaction typique des personnes qui ont réalisé la vérité de qui est Jésus. Ils reconnaissent soudain qu'ils ont crucifié le Fils de Dieu. Luc nous raconte que le centenier dit « Certainement, cet homme était juste. » Juste. Il ne parlait pas simplement d'innocence. Il parlait de la justice positive qu'il a amenée avec les autres soldats à commencer à louer Dieu, qu'il a amené à prendre conscience du véritable Dieu, du véritable Fils de Dieu comme étant celui qui est juste. Ce sont les premiers convertis de Christ quelques instants après la crucifixion. Ils viennent à la foi au moment même où il meurt. Il y a beaucoup d'autres détails que j'aimerais connaître sur ce qu'il pensait, mais nous devons attendre d'aller au ciel pour connaître ces détails. Savait-il que l'Ancien Testament promettait que le Messie serait appelé « celui qui est juste » Le psaume 16 au verset 10 dit qu'il serait juste. Ésaïe 53 verset 11 dit qu'il serait juste. Jérémie 23 5 dit qu'il serait juste. Ceci est au moins la septième affirmation de l'innocence de Jésus. C'est le mot dikaios qui signifie juste. D'un point de vue humain, tout cela était un immense crime contre la justice et ils en étaient coupables comme si ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais du côté de Dieu, c'était un immense acte de justice, et c'était la volonté de Dieu. Cela les a frappés. Non seulement ils avaient tué un homme innocent, mais un homme juste. Innocent signifie qu'il n'avait rien fait ce dont ils l'accusaient. Juste signifie qu'il ne fait que ce qui est juste. En fait, ils avaient tué le Fils de Dieu. Ce n'était pas seulement le centenier, mais ceux qui l'accompagnaient qui sont venus à cette foi.
Nous pourrons leur demander des détails lorsque nous serons au ciel.
Mais ils avaient capté tout cela. Les proclamations de Jésus qu'ils ont entendues, les accusations prononcées contre lui qu'ils ont entendues, et ils en ont tiré une juste conclusion. Aidés bien sûr et oints par le Saint-Esprit qui a rassemblé là pour le royaume non seulement un malfaiteur mais aussi des soldats romains endurcis, idolâtres, païens. Les preuves étaient convaincantes et ils ont été convaincus. Le verset suivant nous présente les convaincus de péché. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Nous voyons ici la foule changeante. Quelle semaine ! On est passé par toute la gamme des émotions. Retournons à lundi. Lorsque Jésus est entré dans la ville, il jetait des feuilles de palmier devant lui et l'acclamait en tant que fils de David et le Messie. Hosanna, ô fils de David ! Ils acclamaient le roi, leur Messie. C'était l'espérance de leur cœur. C'était de la joie. Leur joie débordait. C'était un bonheur euphorisant et exubérant. Ils étaient emballés. C'était le moment qu'ils attendaient. Une joyeuse anticipation avait gagné cette foule, que le Messie était enfin arrivé. Une émotion extrême qui faisait battre leur cœur en pensant à la réalité que le Messie était enfin venu après tous ces siècles d'attente. C'était une joie extrême. Quelques jours plus tard, le vendredi matin, leurs émotions étaient très différentes. Non pas une extrême joie, mais une extrême colère, haine, animosité, alors qu'ils criaient « Crucifiez-le, crucifiez-le !» Nous ne laisserons pas cet homme régner sur nous. Et tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Il se laisse encore emporter par une émotion extrême, alors qu'il passe par toute la gamme des émotions. C'est ici la dernière manifestation extrême. Quelle est-elle ? La crainte. Ils frappent leur poitrine de crainte. Ils sont terrifiés. Il est dit dans le verset 48 « Tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle. » La foule qui a commencé à se rassembler dans la matinée et qui est resté toute la journée et qui entoure maintenant la croix, la foule vacillante qui a regardé
la
théoria, le spectacle. C'est la seule fois que ce mot est utilisé dans la Bible. Il s'agit d'un événement unique, un spectacle sans pareil au calvaire. Le spectacle divin du calvaire. Et quelle est leur réponse ? Ils sont terrifiés. Pourquoi ? Tout a commencé comme une comédie, n'est-ce pas ? Tout a commencé quand ils ont orchestré une plaisanterie autour de Jésus, en lui lançant des insultes et des sarcasmes, se moquant de lui. Mais ensuite, Dieu est venu. La présence de Dieu leur était connue dans les ténèbres et dans le tremblement de terre, et la comédie est devenue une tragédie. Personne ne parlait pendant 3 heures, en tout cas, il n'est pas rapporté qu'ils aient dit quoi que ce soit, et Jésus n'a pas parlé non plus pendant ces 3 heures. Mais Dieu a déversé sa colère, sa fureur, et ils étaient terrifiés par les ténèbres, par le tremblement de terre qui fendait les rochers. Voici ce qu'il est dit de la foule qui s'était rassemblée pour le spectacle. Lorsqu'ils ont vu ce qui se passait, les ténèbres, le tremblement de terre, Dieu arrivé, ils ont commencé à retourner en ville. Il est maintenant 3 heures. C'est l'heure du sacrifice des agneaux de la Pâque qui a lieu entre 3 et 5 heures. Ils doivent aller au temple. Et, s'ils ne l'avaient pas déjà entendu, en arrivant au temple, ils trouvent un chaos absolu. Il devait y avoir des dizaines de milliers d'animaux prêts à être sacrifiés par tout le contingent des prêtres qui sont horrifiés car le voile a été déchiré du haut en bas qui sépare le reste du temple, le lieu très saint. La présence de Dieu est si crainte qu'une seule personne pouvait y entrer par année, le grand prêtre, le jour de l'expiation. Et c'est seulement après avoir fait le sacrifice nécessaire pour ses propres péchés qu'il pouvait entrer et sortir très rapidement. Et maintenant il est grand ouvert. Le désordre du temple devait être indescriptible. Ils ne savaient probablement pas quoi faire. Alors que les gens descendent de l'endroit où Jésus a été exécuté avec les 2 malfaiteurs pour aller célébrer leur fête de Pâques, ils n'y vont pas avec joie. La comédie est terminée. La tragédie a totalement pris le dessus et une de leurs actions est décrite. Ils se frappaient la poitrine. Croyez-moi, l'événement avait perdu son charme. Ils venaient d'expérimenter une blessure mortelle de leur âme qui ne guérira pas. La culpabilité sans réconfort fait place à une douleur qui ne peut être soulagée. Ils savent que Dieu est venu. Les paroles de blasphème qu'ils viennent de prononcer sont maintenant la cause de leur propre inquiétude, de leur propre culpabilité et de leur propre crainte. Ils se frappent donc la poitrine. Cela nous rappelle le collecteur d'impôts, n'est-ce pas ? Dans Luc 18 au verset 13, qui par crainte et culpabilité ne pouvait lever les yeux vers le ciel, mais avait la tête inclinée en se frappant la poitrine, en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur ». C'est la façon dont les Juifs exprimaient la culpabilité et la crainte d'avoir violé la loi de Dieu. C'était vraiment le miraculeux qui les effrayait à ce point. Et ceci est aussi une réponse juste. La crainte de Dieu est une réponse juste. C'est une réponse qui correspond à un commandement. La terreur qui découle de la culpabilité et du rejet de Jésus-Christ est une réponse juste. La crainte du jugement divin à cause de la façon dont on a traité Christ est exactement la façon dont un pécheur doit se sentir. Et cela a eu des effets. Je suis convaincu que cette culpabilité, alors qu'elle ne semble pas être résolue, ici dans ce texte, est une préparation à quelque chose qui est arrivé plus tard. Au fur et à mesure qu'ils descendaient la colline avec ce sentiment de culpabilité, celle-ci augmentait de jour en jour, elle effaçait de leur esprit la mémoire de cet événement. Et lorsque Pierre est monté, le jour de la Pentecôte, pour prêcher un serment, voici comment celui-ci s'est terminé. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Dans Actes 2, 36. Ceci fait encore grandir la culpabilité qu'ils ressentent déjà, la crainte du jugement divin sur ce qu'ils ont fait.
Et lorsqu'ils entendirent dans le verset 37, il est écrit,
je le lis, ils eurent le cœur vivement touché. Leur cœur était déjà attendri par l'expérience qu'ils ont vécue à la croix. Je crois que pour eux, la culpabilité et la crainte qu'ils ont ressentie en descendant du calvaire étaient une préparation au sermon de Pierre le jour de la Pentecôte. Et ils ont dit à Pierre et au reste des disciples, « Hommes, frères, que ferons-nous ? Comment pouvons-nous être sauvés de la colère de Dieu pour les fautes que nous avons commises contre Christ ?» C'est ce qu'ils sont en train de demander. Et Pierre dit, Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés en ce jour-là. Le nombre des disciples augmenta d'environ 3000. La préparation initiale à cette repentance de la Pentecôte a été le moment où ils se sont frappés la poitrine d'horreur, de terreur et de crainte de ce qu'ils avaient fait à Jésus. Si on lit le chapitre 3 des Actes, on voit que le message de l'évangile de Jésus, le message de Jésus-Christ qu'ils ont crucifié, est vraiment à la fois Seigneur et Christ, continue à résonner dans les paroles des apôtres dans tout Jérusalem. Les apôtres ont été arrêtés par les dirigeants d'Israël, mais en fait cela n'a rien arrêté parce que le travail avait déjà commencé dans le cœur de beaucoup, de nombreuses personnes qui étaient présentes. Et même si les autorités ont mis des apôtres sous silence, dans Actes 4, verset 4, il est écrit « Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. 3000 hommes, nous pouvons supposer qu'il faut ajouter à cela des femmes, 5000 hommes et femmes, des milliers de personnes qui viennent à Christ dans les semaines qui suivent la mort de Christ. Une préparation pour cela a commencé ce jour-là, sur la colline, alors qu'ils ont été remplis de la crainte de Dieu. C'est une réponse juste, c'est une réponse juste. Cela doit conduire à la repentance, à la crainte, à la culpabilité, à l'inquiétude, à l'appréhension. Cela doit conduire à la repentance et à la foi en Christ. Et lorsque c'est le cas, alors le salut vient. C'était une réponse juste de la part des Romains convaincus d'accepter le fait que Jésus est le Fils de Dieu. C'était une réponse juste de la part des gens de ressentir la crainte et pour des milliers d'entre eux de se repentir ensuite et d'accepter Christ comme Seigneur ultérieurement. Il nous reste encore un autre groupe. Dans Luc 23, verset 49, « Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. » Toutes ces connaissances et les femmes, c'est l'entourage proche constitué des personnes qui suivaient Jésus, des femmes de Galilée. Vous vous souvenez de Suzanne, dans le chapitre 8, qui était l'une d'entre elles. Il y avait Marie de Magdala, il y avait Marie, la mère de notre Seigneur. Il y en avait d'autres parmi les femmes qui suivaient le Seigneur. Jean donne leur nom dans Jean, chapitre 19, versets 25 à 27. Il les identifie. Laissez-moi vous lire cela. Il est dit. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Et il y en avait d'autres qui suivaient Jésus, comme je l'ai mentionné, indiqué dans le chapitre 8 de Luc. Il y avait aussi le disciple qu'il aimait, Jean. Et Jean nous dit dans ce passage que je viens de lire qu'il se tenait tout près de la croix. Et il l'était au début de la crucifixion, et tout au début, vous vous souvenez, Jésus dit « Femme ». Voici ton fils, fils, voici ta mère. Et il a donné à Jean la charge de prendre soin de sa mère. Mais maintenant, ils ne sont plus près de la croix. Le verset 49 nous dit qu'ils se tenaient dans l'éloignement. Alors que se déroulaient la comédie, la moquerie et les maltraitances, il est raisonnable de penser qu'ils ne pouvaient supporter ce qui s'est passé pour celui qu'ils aimaient si profondément, et qu'ils se sont effacés vers l'extérieur de la foule. Puis, dans les ténèbres et l'horreur du jugement qui est tombé, il se pourrait qu'ils aient pensé que lorsque la présence de Dieu allait descendre, il allait frapper à mort les Romains et frapper à mort les Juifs. Mais au lieu de cela, Christ reçoit sa colère et ils sont là, à distance. Il pourrait sembler que nous ne savons pas vraiment ce qu'ils pensaient parce que tout ce qui est dit est qu'ils regardaient ce qui se passait. Ils regardaient ce qui se passait. Eh bien, tout est dit. Ils regardaient sans faire de commentaires. Pourquoi ? Ils ne savaient pas quoi dire. Ils étaient choqués, stupéfaits. Comment est-ce possible ? Ils ne comprennent pas. C'est le Messie. Ils savent cela. C'est le Fils de Dieu. Ils savent cela. Ils sont anéantis par ce qui lui arrive. Ils ne peuvent comprendre. Cela n'a pas de sens. C'est la même attitude que nous voyons sur la route d'Emmaüs et les disciples ne peuvent comprendre ce qui se passe. C'est le silence, le choc. Et c'est aussi une réponse juste. Si la croix est la fin, si la croix est tout ce qu'il y a, alors nous restons sous le choc. Ils ne parlaient pas non plus parce qu'ils ne savaient pas quoi dire. Ils ne pouvaient exprimer qu'un silence stupéfait. Jusqu'au chapitre 24, dimanche matin, Lorsque les femmes et les personnes qui suivaient Jésus découvrent qu'il est vivant, et c'est une réaction juste d'être stupéfait par la croix, c'est une réaction juste d'être choqué par la croix. Mais la résurrection transforme tout cela en une grande joie. Je ne pourrais même pas concevoir leur tristesse de ce jour-là. Il serait même impossible de décrire le chagrin qu'ils ont dû ressentir en regardant ce qu'ils ont vu. Mais Luc nous rappelle que la raison pour laquelle Jésus est mort était pour assurer les pécheurs qu'il est le Fils de Dieu, pour amener les pécheurs à se repentir de leurs péchés, et pour ramener les pécheurs à accepter sa mort et sa résurrection. En cela se trouve le salut. Quelle est votre réaction? Êtes-vous convaincu? Êtes-vous convaincu de péché? Et est-ce que votre confusion et le fait que vous ayez été confronté à votre péché sont dissipés et effacés dans la gloire de la résurrection? J'ai confiance que oui.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.